Bienvenue au projet de balado-diffusion « Ça jase dans le rang ». Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine.
Et moi, c'est Mélissa Véro, je suis agricultrice et travailleuse sociale.
Le projet de balado « Ça jase dans le rang » est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et pour arriver à bien dans cette aventure, nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véro.
La Vraie Nature Service Psychosocial.
Donc, ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous.
La vie de couple, selon moi, c'est un petit peu propre à chacun, mais je vais un petit peu peut-être parler pour moi. Ce qui est important, premièrement, c'est bien communiquer entre les deux personnes, bien comprendre aussi l'autre personne, les enjeux de chacun, pour être capable, après ça, de pouvoir faire des compromis selon les besoins de chacun, et puis de se rendre au même point, dans le fond, de ramener dans le même sens. Deuxième des choses, bon, la communication est bien importante, les compromis aussi également. Deuxième des choses, je pense qu'il faut se contenter de petits moments, de petits bonheurs quotidiens, baisser un petit peu nos attentes. C'est sûr qu'une entreprise, les entreprises de nos jours sont très, très grosses, prennent beaucoup de place. Faut essayer d'être résilient là-dedans. Puis se contenter de petits bonheurs comme ça, je pense que c'est très important, puis aussi s'accorder un petit peu de temps dans la mesure du possible. Là, des fois, c'est juste des petits moments comme ça au quotidien.
Bonjour Mélissa.
Allô François.
Comment tu vas?
Hey, je vais bien. Toi?
Oui, ça va super bien. On poursuit la discussion entamée la semaine dernière.
Oui, oui, oui. Écoute, moi, je suis emballée par notre sujet.
Oui, je le vois que dans tes
c'est
yeux,
comme, hein?
Il y a une énergie d'un côté de la table,
c'est
visiblement.
Ça.
Là.
Parler du couple, hein? Fait qu'on a commencé, dans le fond, la semaine passée en parlant des relations amoureuses. Mm-hmm. J'avais proposé, en fait, de le faire sous différents thèmes. On a abordé le thème la semaine passée, plus du volet au niveau de la rencontre. Comment on peut faire quand on est un producteur pour être capable, dans le fond, de rencontrer quelqu'un, producteur ou une productrice. Puis le prochain sujet qui suit, c'est une fois que tu as réussi à rencontrer quelqu'un, que tu formes une identité de couple, bien, quels sont les enjeux d'être en couple? Puis, fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je te propose. Fait qu'on parle de la notion de couple, mais la notion de couple en affaires. Fait que, tu sais, la notion de couple, c'est déjà quelque chose de complexe. Fait que quand on rajoute avec ça la portion qu'il y a une entreprise là-dedans et que souvent les deux partenaires sont impliqués dans cette entreprise-là, donc, ça rajoute un niveau de complexité qui est quand même assez important.
Clairement, parce que même si on parle de vivre au quotidien avec une autre personne, quand on travaille les deux à l'extérieur, notre quotidien est quand même amputé d'au moins 35 à 40 heures sur les heures ouvrables. Fait qu'on on a quand même, on va se le dire, nous autres, on a certaines périodes de congé.
On a un petit break.
Mais quand tu dis, c'est vrai ton point, quand en plus tu es en affaire avec la personne, en affaire, puis même souvent dans des productions agricoles où tu n'as pas le choix d'être là, mm-hmm. souvent 7 jours sur 7, souvent ouais. proche, c'est rare que tu as... Oui, ça devient... Il y a certaines situations sûrement qui amènent...
Bien, c'est ça, hein? C'est que ça peut devenir très challengeant. Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, il y en a certains, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Puis, est-ce qu'on est prêt à ça quand on embarque dans une dynamique d'être en couple en affaires? Souvent, on n'est pas conscient parce qu'on est emballé, parce que c'est un projet commun. Mais avoir un projet commun d'entreprise, c'est aussi de tout ramener les problèmes de l'entreprise à la maison. Donc, la coupure entre...
Vice-versa sûrement aussi.
Tu veux dire de ramener les problèmes de la maison dans l'entreprise? Bien, c'est sûr. Puis je te dirais que là-dessus, les madames sont moins bonnes que les messieurs. Fait que, tu sais, c'est comme... la façon qu'on est faite biologiquement, les hommes, les femmes, on a beaucoup de similitudes, mais on a beaucoup de différences aussi.
Je pense que nous, on oublie plus vite, hein?
Bien, c'est ça. C'est que, tu sais, moi, des
on
fois...
On passe rapidement à autre chose.
Bien, tu sais, moi, souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est comme, bien, mettons, on a des classeurs où on garde nos informations. Fait que les hommes et les femmes, on n'a pas toutes la même façon qu'on va ranger nos classeurs. Fait que, tu sais, la femme va avoir un grand tiroir, puis ça va tout être ensemble dans un même grand tiroir, tandis que l'homme va avoir plusieurs petits tiroirs. Ça va être plus compartimenté. Fait que quand on ramène des enjeux, mettons, personnels dans une entreprise, bien souvent, ça va être parce que madame va être restée fâchée parce qu'il y a eu un conflit qui vient de se passer dans la maison, puis que là, après ça, on se revoit au travail. Fait que c'est comme, non, moi, je me souviens, là, j'avais des frustrations, là. J'étais pas contente après toi. Donc, j'aurais pas le goût nécessairement de collaborer avec toi maintenant qu'on est rendu dans l'étable, mettons. Puis, la même chose est pareille. S'il se passe un conflit à l'étable, puis qu'après ça, on retourne finir notre journée de travail à la maison, bien, la madame va souvent avoir plus de difficultés à faire comme « Ah, OK, bien là, on vit d'autres choses. » C'est comme, on va rester plus accroché au niveau des émotions. Fait que ça va plus nous tirer un petit peu vers le bas. Fait que ce côté-là, je te dirais que les hommes ont plus de facilité à être capables de compartimenter puis d'être capables de
dissocier.
Ouais, de dissocier justement l'émotion avec l'événement et le contexte dans lequel ça va s'être passé.
Les beaux défis.
Fait que, tu sais, écoute, puis, tu sais, je veux aussi que l'on aborde un peu la partie au niveau séparation.
Oui.
Puis, parce que, tu sais, la séparation au niveau des couples agricoles, il y a quand même des réalités aussi en termes de séparation parallèlement, mettons, à la population normale, moyenne. Puis, il y a plein de questions que moi, je m'étais fait une idée sur les coupes en agriculture. Puis, la séparation des coupes en agriculture, je me disais, parce que statistiquement, il y a moins de séparation chez les coupes agricoles que la population générale.
On explique ça comment?
Ben c'est ça, c'est que je vais te garder la réponse pour plus tard parce que j'aime ça garder un petit peu le petit challenge vers quoi on va aller.
Je vais prendre ça en note maintenant quand tu vas me poser mes questions, Cole, je vais dire ça, je me garde la réponse pour plus tard.
Oui, c'est ça, il faut que je te garde intéressé, tu sais, il ne faut pas que je te donne. Mais tu sais, juste pour te dire, moi, ce que j'avais, oui, effectivement, il faut que je te garde réveillé. Mais moi, j'ai longtemps pensé que les gens en agriculture avaient tendance à moins se séparer parce que les gens avaient des valeurs plus conservatrices. Donc, travaillaient plus fort maintenir, dans le fond, le couple en vie avant d'aller vers une séparation.
Okay.
Fait que je te dirai tout à l'heure,
roulement
de tambour, si j'avais bien ou faux, dans le fond, dans ma réflexion.
C'est un challenge toi-même, c'est bon, c'est ça, j'aime ça.
Exactement. Fait qu'écoute, le couple en agriculture.
Oui.
T'es prêt, François?
Prêt, pas prêt, j'y vais.
Yes. Bien, première chose, j'aimerais ça qu'on parle de distinction au niveau des intérêts hommes-femmes. Parce qu'au niveau de la biologie et du côté génétique, il va y avoir des différences quand même qui vont venir faire en sorte qu'on n'aura pas les mêmes intérêts. Puis ces intérêts-là vont souvent être la source de conflits. Parce que pour une personne, il y a des choses qui vont être importantes et pour l'autre, c'est secondaire. Fait que je te présente un petit peu c'est quoi, dans le fond, les principales différences hommes-femmes au plan des intérêts. D'abord, mettons, on va différencier, bien, je vais mettre ensemble intérêts et traits de personnalité parce qu'il y a des traits de personnalité qui sont plus typiquement féminins, puis il y a d'autres traits qui sont plus masculins. Fait que ça aussi, ça fait une différence. Fait que si on combine ensemble intérêts et traits de personnalité, ça nous donne en fait deux profils qui sont quand même assez différents. Là-dedans, on va y avoir au niveau, dans le fond, de qu'est-ce que vont rechercher les hommes. Les hommes, naturellement, vont préférer les objets. Et les femmes vont préférer les relations. Donc, au niveau des intérêts, ça vient vraiment marquer. Puis ça, ça a un impact sur nos comportements, dont nos traits de personnalité. Les traits de personnalité, là, ça va être la nature profonde qu'on va avoir. C'est comme si on écoute notre petit instinct naturel, ça va être la tendance qu'on va avoir à adopter un comportement. Mais comme je l'ai expliqué la dernière fois, je n'avais parlé un petit peu là, quand j'avais parlé d'impulsivité, c'est pas parce que tu as une nature avec un trait à l'intérieur de toi que ça va nécessairement dicter ton comportement, parce que quand tu en prends conscience, tu es capable de venir moduler. Mais tu vas rester avec une tendance naturelle que tes pensées vont être orientées vers ça. Fait que les femmes, dans leur trait de personnalité, vont avoir tendance à être plus agréables que les hommes.
À être plus agréables que les hommes?
Oui, plus agréables que les hommes. Pourquoi? Parce que l'agréabilité fait référence à la relation avec l'autre personne. Fait que quand on est une personne, dans le fond, qui est agréable, puis là, je te vois en train de faire ta petite recherche pour voir agréabilité. Puis agréabilité, c'est un des 5 traits de personnalité selon l'approche du Big Five, qui est une des plus grosses théories au niveau des tests de personnalité, qui a été basée sur des milliers de personnes. Peu importe quel est, dans le fond, le statut socio-économique, la culture, c'est des généralités qu'ils ont faites. Ils ont enquêté sur des milliers de personnes partout dans le monde, puis ils ont ressorti les données, dans le fond, similaires, puis ils ont bâti des espèces de boîtes pour venir mettre les gens après ça, venir identifier des caractéristiques qui sont communes. Puis là-dedans, il y en a une qui est l'agréabilité. Donc, ce que ça veut dire quand on regarde l'agréabilité chez les femmes, c'est que les femmes vont avoir beaucoup plus tendance à être empathiques, à prendre le pouls de l'autre personne, à faire en sorte d'éviter les conflits, à vouloir s'assurer que tout le monde va être bien autour de soi. Donc, ça va aussi faire en sorte que les femmes vont avoir tendance souvent à s'oublier. Donc, vont prendre des décisions souvent pour favoriser leur environnement, favoriser le conjoint, favoriser les enfants, mais au détriment parfois de leurs propres besoins. Exactement. Tandis que les hommes sont moins dans ces enjeux-là. Un homme va être moins agréable qu'une femme dans sa tendance naturelle.
Ça me fait drôle d'entendre ça.
Ben, mais tu sais, puis ce que ça veut dire, en fait, c'est que les hommes vont être moins affectés par la réaction de l'autre personne. C'est que si l'autre personne, sa réaction est négative, l'homme, ça va moins le déranger.
Okay.
Il ne partira pas avec un sentiment de culpabilité ou un ressenti de faire comme « OK, là, je l'ai-tu dérangé? » Puis là, tu sais, puis on le voit souvent hein, dans les relations homme-homme, c'est comme souvent, ça va se parler dans le casse.
Oui. Puis après ça, ça va continuer.
Mais les gens ne sont pas fâchés. C'est comme « OK, on vient identifier tout de suite où notre limite, on s'affirme, puis après ça, on repart chacun de notre côté. » Mais les femmes, c'est pas ça que ça va faire. Les femmes, souvent, c'est que, on va ruminer ça après, OK, on dirait que je l'ai dérangé, faudrait-tu que j'aille m'excuser, puis là, j'aurais peut-être pas dû dire ça, puis là, il va avoir une corde sensible qui va avoir été détectée de ce côté-là. Donc, parce que les femmes sont plus agréables, les femmes vont avoir tendance à miser plus sur les relations.
OK.
Ça va commencer. L'autre trait de personnalité qui est plus caractéristique au niveau des femmes que des hommes, c'est la tendance à ressentir des émotions négatives. Ça s'appelle le neuroticisme, si tu veux regarder, googler dans l'étude. Le neuroticisme, en fait, c'est la tendance justement à être capable de capter c'est quoi les dangers, les menaces autour et qu'on va plus ressentir des événements, des émotions négatives qui vont y être associées. Donc, dans le neuroticisme, les femmes, naturellement, vont être meilleures aussi pour capter ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas toujours.
C'est pas très agréable.
Bien, c'est ça. C'est ça. C'est que tu viens de faire un bon lien sans peut-être l'avoir vu de façon consciente. C'est que la femme, ce que ça fait, c'est que si elle se rend compte qu'elle a mis une limite, qu'elle s'est affirmée que ça l'a dérangé l'autre personne, elle va aussi être capable de détecter c'est quoi l'émotion négative que ça va avoir suscité chez l'autre personne. Fait qu'elle va le ruminer après. Okay. Puis elle sera pas bien. Ça va plus la déranger dans son fonctionnement.
OK.
Fait que, voilà. Fait que donc, les hommes et les femmes se définissent par les relations, se définissent par avoir des amis, être en relation avec les enfants, pouvoir avoir du temps pour elles, du temps en famille et tout ça. Tandis que les hommes vont se définir par rapport à trois choses. Les hommes vont se définir avec le statut socio-économique, le travail, puis avoir une femme.
Mmh.
Donc, c'est quand même assez particulier. Ce que ça veut dire, ça, dans le fond, mettons qu'on le colle avec le mode du travail, ce que ça veut dire, c'est que le nombre de travail, d'heures de travail par semaine pour un homme va être différent de celui d'une femme. Ça veut dire que l'homme, parce que lui, dans ses priorités, ce qu'il veut, c'est d'être capable d'avoir accès à un plus haut statut hiérarchique, il va avoir tendance à être plus compétitif. Il va être prêt à mettre plus d'heures de travail pour être capable de monter dans le statut hiérarchique. Il va souvent viser à gagner plus d'argent aussi. Le revenu, il va vouloir augmenter son revenu, il va vouloir augmenter ses capacités. Puis, les relations vont prendre un petit peu le bord. Parce que si tu fais le choix de prendre beaucoup d'heures de ton temps pour le travail, pour augmenter ton statut socio-économique, ça va faire en sorte que c'est des heures que tu ne prendras pas pour investir dans tes relations. Les femmes, certaines femmes vont être capables de le faire aussi, parce qu'on a des femmes qui vont avoir des caractéristiques qui vont être aussi, tu sais, basées sur, tu sais, qui vont ressembler à des caractéristiques d'hommes. Sauf que les femmes vont se sentir souvent plus en conflit interne. Une femme qui va faire le choix de faire une carrière, de développer une entreprise, de monter beaucoup d'heures, d'utiliser beaucoup de son temps dans son entreprise, ça va faire en sorte que souvent, elle va être un peu plus en conflit interne. Parce que le côté relationnel, elle va se rendre compte qu'elle va devoir sacrifier une partie de ça puis ça va la déranger. Mais tu sais, un homme va être moins dérangé par ça parce que pour lui, dans sa nature, c'est comme clair que le travail doit passer prioritaire parce que ça fait partie de la façon dont il va se définir. Puis ça, c'est particulier aux hommes entre 30 et 40 ans. C'est la phase, souvent, de développement où est-ce que l'homme va vraiment beaucoup miser sur le travail dans sa vie pour venir, dans le fond, se définir. Fait que c'est ça. Fait que les hommes sont prêts, dans le fond, à sacrifier beaucoup de choses, sont prêts à s'investir pour augmenter leur statut social, augmenter le travail, augmenter le revenu, mais il y a un coût qui va venir aussi avec ça. Donc, ceci étant dit, quand les hommes ont réussi à atteindre, dans le fond, ces priorités-là dans leur vie, OK? Souvent, ça va être parce que les hommes vont avoir sacrifié beaucoup de temps qu'on a dit, vont avoir misé sur le travail, mais ça va faire en sorte qu'il va y avoir un coût assez important. Puis ce coût-là va avoir comme impact souvent que l'homme va se retrouver assez pauvre au niveau des relations sociale. Autour de lui. C'est ça. C'est qu'il va y avoir un coût. Fait que souvent, l'homme, mettons qu'on s'imagine qu'il a gravi la montagne, puis que là, il arrive en haut de l'échelon, puis que là, il est rendu avec une belle entreprise, il a fait prospérer, son entreprise est en santé, il y a eu beaucoup de croissance dans son entreprise, mais finalement, il est tout seul. Il n'a pas entretenu ses relations. Fait qu'il se retrouve, il n'a plus d'amis. Des fois, la femme est partie. Des fois, il est en chicane avec ses enfants ou il ne leur parle pas régulièrement. Fait que ça va souvent être des types, dans le fond, d'histoires qu'on va entendre chez des gens qui vont avoir été comme très carriéristes. Donc, il va y avoir un coût au niveau, dans le fond, de la santé mentale, de toute miser sur l'entreprise et sur le statut socio-économique. Et puis, sur aussi l'équilibre de vie. Puis c'est pour ça que là, quand on est en couple avec un homme, puis qu'on a une femme, et que l'homme va beaucoup miser dans son entreprise, mais que la femme, pour elle, les relations sont quelque chose de primordial, bien déjà là, on est en train d'avoir, dans le fond, deux différents intérêts, mais qui sont toutes les deux importants pour chacun d'eux.
Mais dur à comprendre de part et d'autre.
Exactement. Donc, ça va amener beaucoup, en fait, de complexité au niveau du couple. Fait que voilà. Fait que, tu sais, ça, je te dirais qu'en guise d'introduction, je trouvais ça important de bien le placer. Puis, tu sais, là-dedans, souvent avec les hommes, quand les hommes arrivent en détresse parce que, dans le fond, sont en train de tout perdre, que leur femme vient de partir ou quelque chose comme ça, bien, c'est là, dans le fond, que là, ils vont être prêts à tout remuer, là. Puis là, souvent, les femmes vont faire comme moi, mais c'est parce que ça fait longtemps là, que j'essaie d'y parler, là. Puis d'y dire qu'il y a des choses que moi, que je suis insatisfaite, j'ai beaucoup de déceptions, mais c'est comme l'homme, souvent, il va comme faire. Je m'en suis pas rendu compte. Elle aurait dû me le dire avant. Mais c'est ça. Les hommes vont aussi avoir une caractéristique. Ils vont plus accepter de vivre avec le risque. Fait qu'eux, il y a le côté le gambler qui va embarquer là-dedans. C'est comme même s'ils ont des éléments qui leur viennent pour leur dire, OK, présentement, il y a des choses qui se passent, il est en train d'avoir un déséquilibre entre ta vie, dans le fond, personnelle et ta vie professionnelle, l'homme va souvent être prêt à se rendre assez loin avant de poser des actions. Fait qu'il va souvent avoir comme pensée, un petit peu pensée magique, que ça va revenir. Ça va se placer. C'est comme, bon, ben, tu sais, ma conjointe, là, présentement, ça doit être hormonal, là. Elle va, tu sais, ça va passer, elle va revenir. Mais c'est ça. Fait que les hommes ont besoin d'être un petit peu plus brassés que les femmes pour être capables de faire des remises en question puis de venir modifier certains comportements. Puis souvent, ils vont s'en rendre compte quand ils vont être au pied du mur ou que même que la situation a basculé comme de l'autre côté. Fait que, tu sais, les hommes doivent se poser comme question, ben, est-ce que vous êtes conscient des tendances que vous avez? Puis, si ces tendances-là apportent des insatisfactions de l'autre côté, est-ce que vous êtes prêt à perdre votre famille, à perdre votre conjoint? Des hommes, il faut leur parler comme ça. Tu sais, je te le nomme, là, puis je fais comme, oh mon Dieu, je suis donc bien raide d'après-midi. Tu sais, c'est comme, hein? François, es-tu prêt à ça? Tu sais? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, des hommes, il faut que ça soit brassé pour être capable, dans le fond, d'amener vers du changement quand il y a des insatisfactions au niveau du couple. Sinon, ça va être quand même rare que ça va être l'homme qui va venir initier une discussion puis de faire comme à sa blonde. Écoute, là, je pense qu'il faudrait qu'on ait une petite jase parce que moi, je vis des déceptions puis j'ai des insatisfactions dans la façon que notre couple fonctionne. Fait qu'il faudrait qu'on s'en pas.
Okay.
C'est quand même assez rare qu'on a ces...
L'homme, comme tu disais, l'homme va s'attendre à ce que ça va se corriger.
Oui, exactement.
Parler, ça va revenir.
Exactement. C'est comme une petite tendance naturelle.
Puis au pire, je me rachète un nouveau tracteur, puis ça va passer.
Ça peut consoler à court terme, écoute, mais ça restera pas.
C'est pas la solution.
Exactement. Fait que, qui sont nos coupes en agriculture? Nos couples en agriculture, en fait, ce sont souvent, dans le fond, des gens qui sont devenus, dans le fond, des conjoints suite à la rencontre, mais qui sont maintenant beaucoup... le conjoint ne sera pas nécessairement du milieu agricole. Tu sais, avant, c'était comme quelque chose qui était assez commun, c'était comme on vient tous du milieu agricole, de la campagne, mais maintenant, plus nécessairement. Il y a de moins en moins de producteurs aussi, productrices, donc c'est sûr que le bassin est plus restreint. Mais c'est ça. Donc, les producteurs et productrices d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce sont en fait des gens qui vont former un couple, puis que la prémisse de base n'était pas nécessairement de former, d'être ensemble en entreprise. Ça va être au fil du temps qui, parce que souvent, ça va être le fils ou la fille qui va avoir repris, dans le fond, la ferme du parent. Puis, au fur et à mesure que le temps avance, souvent, il est en manque de main-d'œuvre. Puis là, il a besoin d'un petit coup de pouce. Fait que là, il demande à son partenaire de venir comme l'aider et progressivement. L'autre personne va commencer à prendre une part un petit peu plus active au niveau de l'entreprise jusqu'à ce qu'un jour, le côté, dans le fond, de décider de se lancer en affaires, d'être en affaires ensemble, va arriver comme sujet. Puis c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Parce que c'est pas nécessairement pour une question, dans le fond, égalitaire ou d'inclusion que les couples vont devenir deux actionnaires, deux copropriétaires dans une entreprise agricole. Souvent, ça va être influencé pour avoir accès à des programmes particuliers. Parce qu'on le sait, on fonctionne avec, bon, tu sais, on a accès à des subventions, on a accès à des programmes à la relève, on a accès à des programmes pour les moins de 40 ans, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de producteurs, là, qui décident, dans le fond, d'associer leur conjointe dans l'entreprise pour pouvoir avoir accès à leur quota là, de lait là, qu'ils peuvent avoir de plus. Là. Parce que la conjointe est déjà quand même impliquée. Fait que, tu sais, ça, c'est une réalité quand même qui est particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, tu sais, dans le monde des affaires, qui vont bâtir une structure comme celle-là. C'est comme, dans le monde agricole, c'est quand même une particularité que souvent, ça va être un enjeu au niveau d'un accès à des subventions qui va faire en sorte que la conjointe, elle va venir se greffer, dans le fond, dans l'entreprise ou encore le conjoint. Mais encore là, il y a aussi la base, comme je nommais tantôt, que le besoin de main-d'œuvre, le besoin d'avoir un coup de main va faire que tranquillement, la personne, dans le fond, va comme s'impliquer dans l'entreprise. Donc, les agriculteurs et les agricultrices sont, dans le fond, si on compare au niveau, dans le fond, des couples en général, de la population en général, c'est des gens qui vont avoir plus tendance à se marier et qui vont avoir moins tendance à divorcer. Ils vont aussi être souvent en union libre. Donc, c'est pas parce que tu es un producteur nécessairement que tu vas te marier, mais si on compare à la population générale, un petit peu plus.
OK.
Puis ça va avec l'âge aussi. Il y a une question de génération aussi là-dedans. Là, avant, ça se mariait plus, comme la population, comme en général aussi. Je pense que ça ressemble à ça au niveau de quels sont les profils au niveau de nos producteurs.
Fait qu'on se rapproche quand même, comme tu dis à la base, il y a quand même encore un petit élan de traditionnalisme chez les producteurs agricoles.
Oui. Oui. Oui, puis tu sais, le côté, tu sais, d'être en agriculture, ça fait référence à c'est un projet collectif. Mm. Tu sais, parce qu'on reprend l'entreprise de génération en génération.
La famille est souvent impliquée.
Exactement, la famille élargie, tout le monde a besoin de mettre la main à la pâte. Et c'est souvent un lieu aussi où les gens vont se reconnaître, que les gens vont aimer se rassembler, de retourner aux sources. Donc, tout ça font partie des valeurs, dans le fond, collectives, puis des valeurs, dans le fond, qui sont un peu plus traditionnelles. Mais, tu sais, comme producteur, productrice, on continue quand même d'évoluer avec notre époque là, qu'on est présentement. Donc, les valeurs évoluent aussi à travers tout ça. Donc, comme producteur, productrice, écoute, j'ai le goût qu'on parle de... c'est quoi les sujets de chicane là, chez nos producteurs, nos
chicane
productrices?
Chicane pourquoi?
Exactement. François, pourquoi qu'on chicane?
Bien, je ne vais pas te donner ma réponse tout de suite. Là. Je vais te laisser...
Tu vas me laisser attendre un petit peu, prendre mon mal en patience.
Je suis convaincu que le sujet premier, c'est l'argent.
OK.
Je suis convaincu. Puis encore plus, c'est même un couple qui n'est pas en entreprise va se chicaner pour des fins financières, ça c'est sûr. Fait que si en plus, on mêle les deux, puis comme on disait tout à l'heure, la distinction entre l'entreprise et le couple ne doit pas être évidente à faire. Fait que souvent, c'est le même banquier pour des fins personnelles ou des fins d'entreprise. Fait que ça ne doit pas être évident.
Mm-hmm.
Ça, je suis convaincu.
Mm-hmm. Ben écoute, t'apportes une super belle réponse parce que, tu sais, si on fait le lien...
Ça a pris 11 épisodes.
Si on fait le lien avec les autres épisodes qu'on a eus dans le passé, tu sais, quand l'émission qu'on a faite justement sur l'argent en agriculture, le stress financier, c'est le stress principal chez les producteurs. Fait que c'est sûr que si tu as un enjeu financier qui est présent, ça va être, dans le fond, un élément qui va faire en sorte d'apporter plus de temps, plus d'irritabilité au niveau du couple.
Puis comme tu disais tout à l'heure que l'homme a une tendance à être plus vers les objets contrairement à la conjointe, ça veut dire qu'on a tout de suite là deux dualités.
Mm-hmm.
Fait que même si pour la conjointe, la situation financière n'est pas parfaite, si l'homme a décidé, lui, puis toujours le même exemple, d'acheter un nouveau tracteur parce que c'est nécessaire pour l'entreprise, ben on s'entend qu'il risque d'y avoir...
Ben c'est ça, hein, tu sais. Si l'homme, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un nouveau tracteur, augmenter, dans le fond, rajeunir son parc de machinerie, puis que la madame, elle, c'est sa cuisine qu'elle veut rajeunir, là, ou qu'elle rêve d'avoir une belle verrière, là, puis que tous les sacrifices sont toujours faits, mais que ça va toujours dans l'entreprise, puis que pour elle, elle a l'impression que c'est elle qui pâtit de ça. Ou ça l'amène, dans le fond, des situations...
Oui, puis là, elle voit les chiffres des deux bords, là, fait que,
ouais.
T'as investi... X dollars pour l'agrandissement de ton étage, tu n'es pas capable de demander. Je vois là, OK.
Oui, exactement. Fait que ça peut amener là, des discussions assez houleuses là, dans les couples. Écoute, dans les autres aspects, là, les autres facteurs...
Et dans l'éducation des enfants.
L'éducation des enfants, je te dirais que, ben oui puis non. En fait, là, là-dedans, on peut le nommer comme ça parce que ça va en faire partie, mais moi, la façon que j'ai nommé, c'est que souvent, les femmes vont avoir l'impression que l'entreprise va passer avant la famille. Fait que c'est pas tant en termes d'éducation des enfants, parce qu'en termes d'éducation des enfants, souvent, les gens qui sont en agriculture, c'est des gens qui ont des valeurs quand même assez communes au niveau de la façon, dans le fond, qu'on travaille en équipe, d'être capable d'avoir une discipline, d'être capable de mettre des règles.
Pour reprendre le terme à la mode, là, on parlerait de la conciliation travail-famille.
Ouais.
Fait qu'on pourrait croire que l'homme n'a pas une facilité naturelle à concilier la famille et le travail.
Oui. Écoute, on pourrait utiliser ces termes-là, effectivement. Fait que, tu sais, puis là, tu me devances sur mon prochain facteur, qui est justement le partage au niveau des tâches domestiques. Mais je reviens avec le sentiment que l'entreprise passe avant la famille. Tu sais, tantôt, là, quand j'ai parlé des enjeux, c'est quoi les intérêts marqués, les hommes, les femmes. Les hommes vont se définir par le travail, les femmes vont se définir par la famille. Fait que souvent, il va y avoir une espèce de... Ça va coincer, là, à ce niveau-là. Parce que... Monsieur va avoir beaucoup de travail, va sentir l'urgence de faire avancer les tâches. Puis là, si on parle en plus qu'on est pendant une période estivale où est-ce que l'ouvrage déborde, mais que là, c'est comme, le petit dernier, c'est sa fête. Mais là, c'est comme, là, présentement, là, on est dans le temps des battages. Là. Fait que le temps des battages, c'est comme, bon, quand il fait beau, c'est là qu'il faut que tu battes. Puis bon, hein, tu en profites avant que la saison froide arrive et tout ça. Fait que c'est comme... S'il y a une fête familiale, qu'il y a un spectacle d'un des enfants de fin d'année, la femme va souvent avoir l'impression que l'homme va délaisser la famille puis qu'il va prioriser son entreprise. Pas qu'elle comprend pas, parce que, tu sais, elle a quand même fait le choix d'être avec un producteur, puis tu sais, ça pourrait être vice-versa, là, ça pourrait être aussi la femme qui est productrice, comme dans ton cas, puis l'homme qui n'est pas producteur, puis que, bon, mais la personne dans les deux qui a la plus grosse responsabilité, qui est le plus en charge, en fait, de la ferme, puis des opérations qui sont présentement, mettons, en cours, bien souvent, cette personne-là, ne verra pas comment elle peut faire autrement que de choisir le travail, parce qu'elle va voir les conséquences à long terme qu'il va y avoir si elle ne fait pas ce travail-là. Puis si elle ne le fait pas, elle va sentir un sentiment de culpabilité, puis elle va sentir que son ouvrage, elle va se sentir plus anxieuse parce qu'elle n'aura pas fait les choses quand il aura fallu qu'elle le fasse. Fait qu'elle n'aura pas la paix d'esprit. Fait qu'elle va comme se dire, bien, tant qu'elle est à quelque part puis que je n'aurai pas la tête là, parce que tout ce que je vais penser, c'est que là, j'aurais donc dû être en train de travailler dans le champ à faire mes battages, bien, tant qu'à ça, je vais aller travailler dans le champ mes battages. Mais la femme, elle ne le verra pas comme ça. Surtout quand c'est en fin de saison. T'sais, on va être bon souvent pour faire des compromis, pour être capable de trouver une façon d'accorder à l'autre, de faire comme, écoute, non, je comprends, c'est ta réalité, fait que t'sais, non, vas-y, puis t'sais, au pire, c'est pas grave si t'es pas là cette fois-là, nous autres, on va y aller pareil, ou t'sais. Mais quand on arrive vers la fin de saison, ces stratégies-là commencent à avoir été surutilisées, puis ça fait en sorte que ça va créer plus d'insatisfaction entre les couples. L'autre élément, dans le fond, tu l'as nommé tantôt quand tu as parlé de conciliation travail-famille là, au niveau des tâches domestiques. On a quand même des réalités qui sont quand même particulières dans l'ère où on est présentement, où est-ce que les femmes sont beaucoup actives sur le marché du travail. Fait que les femmes ne sont plus dédiées aux tâches d'entretien ménager puis d'éducation des enfants. Donc, ça va faire en sorte que la femme qui va être impliquée, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit sur l'entreprise familiale, ça va faire en sorte qu'elle va s'attendre à être épaulée, à avoir un partage au niveau de ces tâches-là. Autant au niveau de faire les devoirs des enfants que faire le lavage, faire le ménage. Mais si on est encore là avec un monsieur qui, lui, c'est le travail et le travail est en relation avec les revenus potentiels, il ne voit pas en quoi le côté domestique va pouvoir générer des revenus. Donc, il va avoir tendance à mettre ces tâches-là dans le bas au niveau de ses priorités. Fait que ça va faire en sorte qu'aussitôt qu'il va avoir un peu de temps disponible, bien, il va aller faire de l'ouvrage pour l'entreprise parce que c'est ça qui va générer des revenus. Fait que tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Fait que ça va créer beaucoup de frustration aussi parce que la conjointe va comme faire, ben oui, mais c'est ça, mais tu sais, on a une responsabilité collective, on doit entretenir notre milieu de vie, tout le monde vit dans ce milieu-là, autant dans le fond le producteur, la productrice que les enfants, donc c'est un partage collectif. Fait que ça, là, ça l'emmène vraiment beaucoup de contraintes et d'insatisfaction au niveau, dans le fond, des couples actuellement. Fait que les hommes et les femmes sont pas prêts à faire, dans le fond, tous les sacrifices là, pour maintenir les différents statuts. Là. Fait que, puis l'autre élément que je voulais t'amener aussi, c'est que, bon, tantôt on a parlé du stress financier, l'utilisation du temps. Fait que l'utilisation du temps, c'est que souvent, moi, je me dis, bon, il faut se poser la question, le temps est une ressource qui est limitée. Donc, comment on veut utiliser ce temps-là et avec qui? Puis ça va souvent accrocher de ce côté-là aussi. Parce que, comme on a dit tantôt, monsieur ne comptera pas ses heures, va être, dans le fond, va faire des grandes journées au travail. Donc, lui, il va avoir l'impression que c'est ça qu'il doit faire. Tandis que ce que ça va avoir comme impact, madame, elle, qui veut entretenir des belles relations, va vouloir continuer d'avoir accès à son conjoint ou vice-versa, là, quand c'est la femme qui est productrice. Mais c'est comme l'autre personne va vouloir continuer d'avoir du temps parce qu'on va vouloir continuer d'entretenir cette relation-là. Sauf que ce que ça va comme donner l'impression, c'est que ça va donner l'impression que la personne qui est en attente de l'autre va se sentir non prioritaire et non choisie. Elle va avoir l'impression que, ah ben, il y aura un peu de temps, là, la journée où ce qui mouillera, là, qu'on ne sait pas trop ça va être quand est-ce, il n'y a peut-être pas de mécanique à faire. Fait que ça fait en sorte que les conjoints, les conjointes vont se sentir seuls, même s'ils sont en couple. C'est comme, OK, j'ai un statut de couple, mais pourtant, on dirait que je vis toute seule. Parce que pour être capable de fonctionner là-dedans, quand on est avec quelqu'un qui travaille énormément, bien, il faut être capable d'avoir beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Parce qu'on le sait, si on attend toujours après l'autre personne, bien, ça va augmenter nos insatisfactions, ça va augmenter notre irritabilité, puis ça va engendrer encore plus d'émotions négatives. Donc, souvent, c'est des conjoints, des conjointes qui vont être très autonomes puis qui vont continuer d'avoir des projets personnels, des projets familiaux. Tu sais, c'est pas rare qu'on va voir, bon, ben tu sais, il y a une activité de famille, monsieur, il est dans le champ, mais c'est pas grave, madame, elle y va, puis elle y va avec les enfants, puis, tu sais, c'est, OK, il y a une activité des enfants, ben ça va être la même chose, puis tu sais, mais ça, à la longue, ça vient que ça use, puis ça fait en sorte que l'autre conjoint va se sentir comme, ben que je suis en couple, mais tu sais, je n'ai pas l'impression d'être en couple parce que je vais m'ennuyer de mon conjoint, de ma conjointe. Fait que l'utilisation du temps va aussi être un gros enjeu parce qu'un va avoir tendance à beaucoup investir de son temps dans l'entreprise, puis tandis que l'autre aurait besoin d'une partie de ce temps-là qui va être utilisé dans le fond pour le maintien des relations.
Fait que je blaguais un peu tantôt avec la conciliation travail-famille, mais est d'autant plus importante dans une entreprise agricole que dans un bureau de fonctionnaire. Là.
Précise-moi, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, tu sais, c'est ce qu'on entend souvent, puis on l'entend de plus en plus dans les milieux de travail. La conciliation travail-famille est importante. Puis, tu sais, c'est pas... C'est, je le faisais un peu à la blague, mais c'est pas un terme qu'on entend souvent dans une entreprise agricole. Mais pourtant, il est aussi important, sinon plus, là.
Bien, c'est que je te dirais que les écarts sont plus grands. Parce que tu sais, si on compare à la population générale, que les gens, dans le fond, qui vont travailler, ils vont avoir un travail, mettons, à temps complet, vont quand même avoir des soirées, des fins de semaine de disponibles. Tandis que quand tu es dans un mode agricole, c'est pas nécessairement ça ta réalité. Fait que ça va faire en sorte que, justement, la conciliation travail-famille, pour être capable de concilier les deux, souvent, les familles agricoles ont l'impression que, mon doux, on est donc bien encore arriéré de ce côté-là. Mm-hmm. On a un gros écart à rattraper.
On est-tu héritier d'un modèle qui tarde à changer? Ou tu sais, le modèle où on travaille du soleil, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, du 7 jours sur 7, puis on est-tu encore... Tu sais, oui, c'est correct. Oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps de l'ouvrage, mais tu sais, on l'a fait parce que nos parents l'ont fait, puis les parents l'ont fait parce que leurs grands-parents l'ont fait, puis ainsi de suite. Mais c'est quand on va casser un peu le moule puis qu'on va se dire, attendez, là.
Mais tu sais, il y a quand même des changements dans les générations parce que justement, maintenant, il y a des nouvelles valeurs qui rentrent en ligne de compte, dont la fameuse qualité de vie. Mm-hmm. Puis la fameuse qualité de vie, souvent, va faire référence d'avoir, dans le fond, une liberté, donc d'avoir une liberté de temps, de vivre des expériences. Donc, c'est sûr que ça vient un peu en contradiction avec le mode de vie que de prioriser toujours ton travail. Fait que ça va faire en sorte qu'il va y avoir une pression sociale que les gens vont voir autour, vont se comparer aussi, puis vont faire comme moi, ouais, mais tu sais, eux autres, ils partent en vacances, ça a donc de l'air le fun, moi aussi j'aimerais ça, vivre ça. Fait qu'on va se créer quand même des besoins. Fait que oui, là-dessus, les nouvelles générations de producteurs sont pas prêts à faire les mêmes sacrifices qu'avant. Sauf que de l'autre côté, parallèlement, les entreprises grossissent. Fait que la charge de travail grossit avec les enjeux de main-d'œuvre qu'on a présentement. Les personnes présentement, les chefs d'entreprise n'ont pas nécessairement tendance à travailler moins qu'avant. Fait que c'est comme, il y a comme une espèce de décor là-dedans. Là. C'est comme, oui, on voudrait avoir plus de liberté, mais de l'autre côté, on se sent tellement coincé parce que l'ouvrage nous déborde par les oreilles, puis on ne voit pas comment qu'on peut faire autrement. Puis souvent, ce n'est pas parce que, c'est pas une question de volonté, c'est pas parce qu'ils ne voudraient pas, mais c'est manque de stratégie pour voir comment je pourrais faire pour m'organiser pour aller jusque-là. Fait qu'il y a beaucoup de complexité à travers okay. tout ça qui sont comme à dénouer pour être capable d'avoir accès à augmenter justement cette qualité de vie-là. Là.
Puis, contrairement ouais. à l'employé de bureau qui se fait remplacer ou peu importe quand il s'en va dans le domaine agricole, il n'y a pas de remplaçant.
Bien, on est chanceux parce que là, maintenant, oui, on a la coop, dans le fond, de remplacement, exactement, le relais, qui vient donner un méchant bon coup de main aux producteurs. Puis, tu sais, on est chanceux parce que là, quand même, l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut être représenté, peut, tu sais, il y a des gens qui peuvent se déplacer puis venir nous remplacer, même si on est dans le haut du Lac-Saint-Jean, oui. là. Ce qui a été, dans le fond, un petit défi au début. Mais là, c'est comme, maintenant, c'est pas, tu sais, tu ne peux pas seulement que t'assires là-dessus pour faire comme, ah, OK, non, mais je vais avoir personne. Là, t'es des structures qui sont là pour ouais. t'aider parce que justement, il y avait des grosses lacunes de ce côté-là.
Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent.
Ouais.
Tu sais, il y a 15 ans, on, ouais. on était loin de parler de ça. Là.
Ouais.
Là, c'est la troisième année, quatrième année? Troisième,
à peu près? À peu près, là.
Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a les tendances changent, puis ça devient de plus en plus populaire aussi.
Oui. Oui,
ouais, c'est encourageant.
Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme, bon, ben là, maintenant qu'on sait c'est quoi nos sujets de discorde, les hommes et les femmes, c'est comme, ben qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est bien beau, on sait pourquoi qu'on chicane, mais un coup qu'on chicane, c'est comment qu'on fait pour rétablir tout ça?
Pour pas chicaner ou pour rétablir?
Bien, en fait, c'est impossible de pas chicaner.
OK.
Puis
un réconforte.
Bien, un couple qui ne se chicane pas, c'est comme, il y a des enjeux là aussi, là. C'est parce qu'il y a un enjeu au niveau de la hiérarchie, au niveau du pouvoir. Parce que s'il n'y a pas de chicane dans un couple, tu sais, je te ramène dans le fond à mes trois piliers au niveau du couple qu'on avait vu la semaine passée. Il y avait le premier qui était l'attraction, le deuxième qui était l'intimité, puis le troisième qui était l'engagement. Puis dans le deuxième, au niveau de l'intimité, ce qu'on voyait, c'est que qu'est-ce qu'on veut dans le fond dans un couple, c'est on veut construire une relation. Fait que la relation va être le résultat, ça va être la construction d'avoir investi une partie de soi, d'avoir dit des choses vraies, d'avoir été écouté là-dedans, qui vont faire en sorte qu'ensemble, on va être capable de bâtir quelque chose qui, on va supporter mutuellement, qui va faire en sorte qu'on va être capable de passer au travers certaines épreuves. Mais dans ce statut-là, au niveau de l'intimité, puis même au niveau du couple en général, c'est qu'il doit y avoir une égalité au niveau des statuts.
Mm-hmm.
Fait que si, puis comme les personnes sont différentes, bien, c'est normal d'avoir des conflits parce que le couple, c'est, il y a trois sphères dans un couple. Il va y avoir toi, moi et nous. Fait que c'est comme, OK, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Non, il y a notre couple, mais chacun des personnes doit garder son individualité aussi. Donc, s'il n'y a pas de conflit, le risque, c'est qu'une personne, dans le fond, vienne noyer sa personnalité à travers l'autre, okay. puis qu'elle vienne, dans le fond, coller ses intérêts. Ah oui, toi, tu veux ça. Ah ben parfois, on va aller là. Ah ben on va faire ça. Ah, on va, tu sais. Mais c'est comme, ça ne serait pas nécessairement quelque chose de sain, là, dans le développement personnel, là, de ne jamais avoir de conflit avec son ou sa partenaire.
Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être réconfortés.
Bien, puis en même temps, c'est comme, on peut pas s'exiger ça. C'est quelque chose qui est impossible.
C'est clair.
Fait que quand on sait qu'il y a quelque chose qui est impossible, bien, c'est comme, OK, comment qu'on fait pour vivre avec? Ce serait quoi, dans le fond, les meilleures stratégies pour être capable de faire face à ces discussions-là quand on est en relation de couple? Fait que je t'emmène dans le fond sur la prochaine élément que je veux te parler. C'est, bon, ben quels sont les éléments qui font en sorte qu'on peut être un couple durable? Donc, pas seulement qu'un couple à court terme, mais un couple à long terme. Parce que ça, c'est un défi quand même important de pouvoir construire une relation et de la rendre suffisamment forte pour passer à travers le temps, dont plusieurs épreuves au niveau, dans le fond, de la vie. OK. Donc, là-dedans, ben, le premier élément que j'ai à te proposer, j'en ai quatre à te proposer. Le premier, en fait, c'est la communication. Le deuxième, la reconnaissance. Le troisième, définir chacun ses zones de pouvoir. Et le quatrième, maintenir son espace relationnel pour le couple. Par lequel tu veux commencer, François?
Communication.
Good. Communication, on commence à être un peu bon là-dedans, hein, parce qu'on en a jasé oui, là, puis... quand même quelques fois. Fait que, tu sais, ça va regrouper, en fait, là, le balado sur la communication, sur différents éléments qu'on a comme déjà vus. Okay. Mais, tu sais, si on se fait un bref là, résumé de c'est quoi qui est important dans la communication, une des choses les plus importantes que je tiens à dire, c'est que quand on est en communication avec une personne importante autour de soi, 90% des cas, le sujet ne porte pas sur le bon sujet. C'est qu'on va se servir, dans le fond, d'un symptôme, de quelque chose, d'un exemple très précis pour venir parler d'un enjeu qui est beaucoup plus grand. Puis ça va faire en sorte qu'on va souvent, dans le fond, tourner autour du pot. Parce que c'est comme si le problème, François, que je te dis que c'est parce que tu te remords jamais puis tu te laisses tout le temps traîner, bien, c'est comme si je te dis ça, ça fait, mettons que ça fait des années qu'on est ensemble puis que je te le dis à toutes les semaines, bien, c'est un sujet qui est brûlé. Même si je te dirais, hey, là, François, il faut se parler, là, parce que ça n'a pas de bon sens, je suis plus capable de voir tes affaires traîner puis il va falloir que tu apprennes à te ramasser. Bien, si je t'amène la discussion comme ça, le sujet, il est déjà brûlé. Fait que déjà, toi, tu vas te fermer, puis c'est comme, OK, comment qu'on fait pour avoir un sujet important quand le sujet, il est déjà brûlé? Puis c'est là qu'on utilise, dans le fond, la technique de l'entonnoir, où est-ce qu'il faut venir diluer notre sujet en venant utiliser, en fait, un objectif qui va être beaucoup plus large, mais qui va inclure cet élément-là. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Là, je te donne l'exemple, mettons, de quelqu'un, dans le fond, qui laisse traîner ses choses. Bon, bien, ça pourrait être, bon, bien, comment qu'on va faire pour collaborer ensemble? Est-ce qu'on pourrait se parler de respect dans notre couple? Ce serait quoi? Comment est-ce qu'on voit, dans le fond, à long terme, la façon qu'on pourrait faire pour mieux vivre à deux? C'est quoi les moyens qu'on pourrait se donner? Donc, puis là-dedans, on va finir par inclure les petits sujets comme, à un moment donné, qu'il faut apprendre à se ranger chacun, puis comment qu'on va faire ça? Fait que, tu sais, il y a comme trois éléments là, que je veux te nommer dans la communication. Premièrement, il faut identifier c'est quoi le bon sujet. Fait qu'on doit, avant d'amener la discussion, être soi-même conscient de c'est quoi qu'on veut parler, puis ce sujet-là qu'on souhaite avoir, sous quel angle on veut l'apporter. Fait qu'il faut déjà avoir, dans le fond, cette stratégie-là. La deuxième stratégie, c'est la stratégie, dans le fond, au niveau de la communication, favoriser l'écoute active. Tendre à reconnaître dans le fond, en l'autre, c'est quoi le sens de ce qu'il veut nous dire? C'est quoi son message? Puis tu sais, là-dedans, quand je parle de bonne stratégie de communication, là, il y a toutes les préambules aussi de, OK, il faut amener notre sujet pour trouver un bon moment, un bon lieu, que la personne soit disposée pour le faire. Puis une fois qu'on a mis ça en place, bien, c'est la prochaine stratégie qui est comme, OK, maintenant, je me mets en mode écoute et j'essaie de comprendre le sens de ce que l'autre va me dire. Et non de tomber dans la facette où est-ce que, OK, elle est en train de m'attaquer, donc je vais me défendre. Si c'est ça, on n'est plus dans de l'écoute active. Donc, ça ne permettra pas de résoudre un enjeu. Puis, je me souviens d'avoir nommé, mais je le renomme encore, que le règlement de conflit ne sera pas, en fait, la résolution, ne sera pas la solution qu'on va trouver qui va faire en sorte qu'on va être satisfait ou non de la façon qu'on va avoir géré un conflit. C'est la façon dont on va le gérer. Comment on va parler de ce sujet-là? Qu'on arrive à la fin avec, qu'on soit d'accord ou non, c'est comme, à la fin, ça n'importe peu. C'est, est-ce qu'on a senti que l'autre a compris qu'est-ce qu'on voulait dire et le sens qu'il y avait là-dedans? Puis si chacun a pu avoir la possibilité de s'exprimer, qu'il y a une réciprocité là-dedans, que c'est comme, toi, tu m'as nommé des choses, je les ai accueillies, mais qu'ensuite, moi aussi, j'ai pu te nommer des choses et que toi, tu les as accueillies, là, il y a la notion de réciprocité qui va favoriser le règlement, dans le fond, de conflit de façon satisfaisante. Puis, dans le fond, dans les stratégies de communication, l'autre élément après, bien, c'est comme, OK, maintenant qu'on s'est nommé les choses, qu'on a compris le point de vue de l'un et l'autre, on fait quoi? C'est quoi le plan de match? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer, dans le fond, la situation? Puis on revient toujours sur notre but commun de qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble comme couple. Fait que je te dirais que ça ressemble à ça au niveau de la communication.
Oui.
L'autre élément, dans le fond, que j'ai apporté, c'est la reconnaissance. Fait que la reconnaissance, pourquoi? Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui se cultive. Puis la reconnaissance, les femmes, on a besoin d'être vues. Tu sais, les femmes, là, quand j'ai parlé de la tendance à être plus sensible aux émotions négatives, là, les femmes ont besoin qu'on voit qu'elles ont fait un effort, qu'elles ont travaillé fort, qu'on lui nomme. Puis si, par malheur, l'homme va faire une critique négative au lieu de constructive suite à un effort que la femme va avoir fait, ça va causer des étincelles.
Okay.
Je te donne un exemple, OK? Supposons qu'il y a un partenaire qui a travaillé, dans le fond, super fort pour nettoyer, dans le fond, faire du lavage dans l'étable. Puis, tu sais, c'est une job, là, c'est une job qui n'est pas agréable. Tu sais, t'es tout mouillé, il fait frais, puis c'est comme, tu sais, c'est pas des belles conditions. Puis, tu le fais parce que, pas parce que ça te tente de le faire, là. Tu le sais parce qu'après, tu vas être content, mais, puis que là, l'autre arrive après, puis il fait comme faire... Mais là, vous avez lavé ça, mais avez-vous fait attention aux boîtes électriques pour qu'il arrive d'eau, puis il est mieux d'avoir rien là, de brisé là-dedans. Fait que c'est sûr que l'énergie de l'autre personne, surtout quand c'est une femme, on vient d'y couper sans gaz. Là. Ouais. La prochaine fois, elle n'aura pas le goût de reprendre des initiatives comme celle-là. Tu comprends? Fait que le côté reconnaissance, d'être capable de reconnaître l'autre dans qu'est-ce que l'autre a fait comme effort, que l'autre a fait de bon, c'est quelque chose qui va maintenir, entretenir dans le fond, la motivation. Puis, tu sais, puis là, je l'ai nommé en termes de que les femmes, on est plus sensibles à ça, mais les hommes aussi ont besoin de se faire voir bon. Et la personne de qui ils ont besoin de se voir bon, qui a le plus d'influence, c'est par la personne qu'ils aiment. Fait que la conjointe a besoin aussi d'encourager puis de dire des choses précises à son homme sur en quoi qu'elle est fière de lui puis qu'elle l'encourage à continuer. Pour lui, ça va lui donner vraiment beaucoup de gaz aussi, beaucoup d'énergie. Le prochain élément, c'est de définir chacun ses zones de pouvoir. Parce que tous les humains veulent avoir, dans le fond...
un certain contrôle.
On a tous, dans le fond, des hiérarchies et on a tous besoin, d'à quelque part, dans certaines hiérarchies, de sentir qu'on est plus élevé. Fait que, puis c'est ça une des difficultés dans une entreprise familiale où est-ce que tu es un couple, c'est que là, dans le fond, tu vas venir jouer avec plusieurs hiérarchies, puis plusieurs statuts, mais tu as un statut de couple que c'est comme, ben non, on est égal parce qu'on est un couple. Mais dans l'entreprise, ben là, t'as différentes autres hiérarchies qui s'occupent de la santé du troupeau, qui s'occupent des champs, qui s'occupent de la paperasse, qui s'occupent de l'administration, tu sais. Ça va tout être, dans le fond, d'autres secteurs qui vont faire en sorte que chacun a besoin d'avoir sa zone de pouvoir. Fait que, tu sais, oui, quand tu nommes, dans le fond, le contrôle, parce que le contrôle, c'est que ça fait référence à de l'autonomie. Les êtres humains, pour être capables de continuer d'être motivés, de sentir qu'ils avancent vers quelque chose, ils ont besoin de trois éléments. Ils ont besoin d'avoir de l'autonomie, ils ont besoin de se sentir compétents, puis ils ont besoin de se sentir qu'ils travaillent en équipe. Fait que si j'ai mettons à l'étable, que j'ai mes tâches qui sont à moi, puis que c'est comme, OK, ça, c'est moi qui ai le chef de ça. Mettons, je vais te donner l'exemple, ben, tu sais, chez nous, ben si les petits veaux naissants, ben c'est ma job. C'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui vais vacciner, c'est moi qui vais mettre les tags, c'est moi qui vais les enregistrer. Ben c'est comme, OK, ça, c'est ma job à moi. Fait que c'est comme, laisse-moi mon espace, tu sais. Viens pas empiéter sur mon terrain. Fait que chacun ait des zones un peu comme définies, ça va donner, dans le fond, une bonne chance pour que chacun se sente reconnu dans certaines tâches. Puis même qu'on demande conseil à l'autre, c'est comme, ah, ben, tu sais, telle affaire, là, toi, tu ferais quoi là-dedans, là? Fait qu'on reconnaît en même temps sa compétence. Fait que ça vient mettre en place les hiérarchies et on a besoin de ça dans une entreprise, même si on est en couple. Puis le dernier, ben, c'est de maintenir un espace relationnel de couple. Puis ce que je veux dire là-dedans, de se donner un espace relationnel de couple, c'est que, tu sais, tantôt, on a dit qu'on est une entreprise, mais
puis on n'est pas juste une entreprise, surtout.
Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, l'espace relationnel va vraiment être important parce qu'une relation, c'est une construction. Fait que cette construction-là, je dois et j'ai la responsabilité de l'entretenir. Si je laisse aller, dans le fond, ma relation, que je ne prends plus le temps parce que je me dis que je n'ai pas le temps, que j'ai trop d'ouvrage, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des conséquences en termes de relation. Ça va avoir tendance, dans le fond, à s'effriter. Donc, quand je parle d'avoir un espace relationnel, c'est qu'il faut se donner du temps. Il faut prioriser, dans le fond, des moments à deux, puis il faut se donner, dans le fond, un lieu, puis nourrir cette relation-là. Fait que, tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, des fois, c'est qu'on va juste prendre un moment puis faire comme, bon, ben asseoir, on fait du tracteur ensemble. Ben tu sais, là, oui, c'est la grosse période, il y a un des deux, dans le fond, qui est en train de travailler dans un champ, ben que l'autre vienne juste s'asseoir, puis on jase de tout et de rien. C'est déjà une belle façon, dans le fond, de venir entretenir cette petite espace-là relationnel. Parce que la relation, ce qu'on veut avec la relation, c'est d'être capable d'avoir avec l'autre personne une discussion où est-ce qu'on va se vulnérabiliser. Donc, si je crée un espace où est-ce que je suis capable de parler de moi, de dire des choses vraies et d'être entendu, écouté, puis après ça, que l'autre personne fasse la même chose, c'est comme mon besoin va être répondu. Tu comprends?
Oui.
Fait que de créer, dans le fond, cet espace-là au niveau relationnel. Et oui, François, avant que tu me le demandes, les relations sexuelles, ça compte aussi. Fait que d'avoir un espace relationnel, puis tu sais, je le dis à la blague, mais tu sais, d'avoir des relations sexuelles, de maintenir, avoir cette vie-là, c'est quelque chose qui va aider aussi à la santé, dans le fond, du couple. Mais on ne peut pas juste se fier là-dessus, tu sais. Fait que parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de communication verbale qui va se faire pendant la relation sexuelle. Donc, le besoin d'être entendu et compris, tout ça, ne sera pas nécessairement répondu de ce côté-là. Écoute, moi, là, tu sais, j'aurais tellement de choses à dire, là, mais là, bon, on a parlé qu'on voulait parler
un petit peu. Tu veux nous parler de séparation?
Bien, c'est ça, là. Puis là, je sais que le temps, il avance, là. Écoute, je ramène à ma question de tout à l'heure. Pourquoi les couples se séparent moins dans le monde agricole que la population en général? Ta petite idée, toi, là-dessus,
non,
François?
C'est moi qui avais posé la question, puis c'est toi qui ne m'as pas répondu. Là. Non, je ne me ferais pas avoir. OK, je peux essayer quelque chose d'abord. Pourquoi qu'il y a moins de séparation? Bien, d'après moi, on a parlé de tradition tout à l'heure, puis surtout s'il y a un lien avec l'entreprise, j'ai l'impression que des fois, ça va peser un peu. T'sais, je veux pas prendre cette expression-là, mais je vais apprendre pareil. Tu sais, mettre de l'eau dans son vin... On va se dire, tu sais, quand on va peser, ouais, si je pars, qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise? Qu'est-ce qui va arriver avec si... OK, je vais mettre un petit peu encore d'eau dans mon vin, puis on va continuer. Ça se peut-tu?
Bien, exact. Tu l'as en plein dedans. C'est que c'est pas tant les valeurs conservatrices ou de dire que les producteurs sont plus persévérants que d'autres. C'est que les conséquences d'une séparation sont tellement grandes que les gens vont maintenir des situations inconfortables plus longtemps avant d'aller vers une séparation. Fait que c'est comme l'enjeu financier, tu sais, quand il y a une séparation dans le couple puis que là, faut séparer le matériel, la maison, l'entreprise. L'entreprise n'a pas nécessairement la possibilité de racheter les parts de madame si madame était actionnaire ou de monsieur si monsieur était actionnaire. Donc, ça vient complexifier grandement. Fait que souvent, les séparations vont venir fragiliser la santé d'une entreprise agricole. Fait que c'est le facteur principal. Fait que c'est pas parce que les gens sont plus persévérants ou que qui croient plus en l'amour ou qui sont mieux outillés pour être capables de faire face à l'épreuve. Mais c'est vraiment parce que c'est très, très compliqué d'avoir une séparation, de réussir une séparation dans un monde agricole. Puis tu sais, des fois, il y en a qui font comme, bon, ben on va faire un compromis, on va continuer d'être ensemble en affaires, mais on sera plus un couple.
Ça se fait-tu?
Ça se fait pas bien.
Non, hein?
C'est exceptionnel. C'est très, très rare parce que tu n'as plus les mêmes priorités. Puis tu peux plus t'asseoir sur le côté relationnel pour venir protéger ça. Fait que c'est comme le but commun est fragilisé. Fait que si le but commun est plus suffisamment fort, c'est comme c'est difficile de continuer à travailler ensemble. Puis quand tu as une séparation, ce qui arrive, c'est que tu en as toujours un des deux qui est plus fâché que l'autre.
Oui.
Fait que ça va venir teinter tout le niveau, dans le fond, des relations futures aussi. Fait que si tu continues d'être en affaires ensemble, puis que tu en as un qui est fâché après l'autre, ça va avoir tendance à se transposer dans la relation d'affaires, puis ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui va être sain. Fait que c'est rare, je dis pas que ça se peut pas, mais c'est très, très rare, dans le fond, que les gens réussissent là, à maintenir quelque chose de sain en affaires ensemble après une séparation. Ouais. Puis écoute, au niveau, dans le fond, du divorce, des séparations, des ruptures amoureuses, ce que moi, j'avais le goût, dans le fond, de nommer comme en conclusion, on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu sais, un des conseils que j'aimerais donner, c'est qu'une des choses les plus importantes, c'est qu'avant d'aller vers une séparation, il ne faut jamais agir, dans le fond, sur un coup de tête. Il faut avoir le sentiment qu'on va avoir travaillé sur toutes les angles possibles pour tenter de résoudre la situation, pour la faire progresser sainement. Puis, c'est comme quand on a tout essayé, qu'on a vraiment le sentiment qu'on n'aurait pas pu faire plus, que là, d'aller vers une décision, d'aller vers une rupture, va être une bonne décision. Mais c'est comme les enjeux sont tellement grands qu'on ne peut pas précipiter quelque chose et qu'il faut le faire à maintes reprises. Puis tu sais, l'enjeu de communication tantôt, d'amener des sujets, de voir qu'est-ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il faut le faire. Puis il faut le faire à plusieurs reprises. C'est comme, OK, ça n'a pas marché cette fois-là, mais comment je vais essayer de le faire sur une autre angle? Puis que c'est comme si après ça, je vais avoir comme prise de conscience que je vais avoir tout fait ce qui est en mon pouvoir, ça va m'aider pour la suite des choses, pour être capable de continuer d'avancer et de ne pas regarder par en arrière. Parce que si dans mon cerveau, il reste une petite lueur de « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Ah, que là, on a des regrets, qu'on a des petites choses. » On va être tenté, dans le fond, de regarder notre passé, puis ça va nous nuire pour la prochaine étape de notre vie, pour continuer d'aller vers l'avant, puis sortir comme la tête de l'eau. Fait que, voilà. Fait que jamais de décision précipitée, de discuter, puis d'amener, dans le fond, les sujets difficiles, parce que c'est une accumulation souvent de déceptions qui va faire en sorte que nos vases vont devenir de plus en plus gros, puis qu'à un moment donné, ça déborde. Fait que, prenons l'habitude d'amener, dans le fond, ces petits sujets-là dans notre quotidien, puis de tenter de les éclaircir régulièrement.
On le répète souvent à la fin de chacune des émissions, mais de ne pas hésiter non plus à aller chercher de l'aide. C'est pas parce que c'est un problème de couple et non un problème individuel qu'on peut pas aller chercher de l'aide pour autant, là.
Mm-hmm. Puis c'est pas parce que qu'on va pas consulter en couple, parce que tu sais, souvent les gens me posent comme question, ben là, j'ai des difficultés conjugales, mais mon chum, il veut pas venir consulter. Moi, je peux-tu venir pareil? Oui, absolument. Parce que, puis même que c'est un mythe qu'on doit travailler sur la relation, c'est que si tu travailles sur les individus, puis que les individus travaillent à être capables de voir quelles sont leurs responsabilités, puis qu'il y a une prise de responsabilité là-dedans et qu'eux viennent modifier certaines choses dans le comportement, ça va avoir un impact sur l'autre aussi. Fait que ça va être une façon de faire évoluer, puis c'est d'atteindre des meilleurs buts au niveau relationnel aussi.
Ah, c'est un bon point, ça. On aurait tendance à croire ça, que le travail de couple, ça se fait en couple ou ça se fait pas.
Oui, mais non, c'est ça. Puis même qu'un bon thérapeute de couple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener les deux personnes à reprendre chacun leur responsabilité individuelle pour voir en quoi ils ont contribué à ce que cette dynamique-là soit rendue comme ça aujourd'hui. Et non de voir c'est quoi la faute de l'autre, puis tu sais, d'essayer de trouver c'est qui le coupable.
OK. C'est bon. Fait que, puis, parlant de ressources, on en a parlé tantôt, mais je veux le rappeler aussi. Là, on parlait de la coopérative de remplacement, le relais.
Oui.
Super belle entreprise. Ben, pas une entreprise, une coopérative qui, à l'aide de main-d'œuvre, permet des remplacements de courte, moyenne durée. Hein? Ça peut aller à des vacances, ça peut aller à des maladies, des blessures, ou tu as juste besoin, aujourd'hui, je veux prendre congé.
Exactement. Puis ça peut même être sur des bases régulières.
Okay.
Ça peut être, exemple, ben, moi, j'ai pas d'employé, puis à tous les mercredis, je voudrais avoir quelqu'un de la coop de remplacement qui vient travailler dans mon entreprise. Ben c'est quelque chose qui est possible. C'est sûr qu'eux vont prioriser selon, OK, y a-tu quelqu'un qui est dans une urgence parce qu'il y a une blessure, qu'il y a eu quelque chose. Mais tu sais, sinon, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Puis en termes de ressources, François, j'ai su une bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant à nouveau une travailleuse de rang dans notre secteur, dans notre région. Elle s'appelle Lise Batt. Je ne sais pas si je le dis comme fond, là, mais c'est B-A-T-E-S. Donc, j'avais hâte de le dire aux producteurs parce que je trouve ça tellement important là, d'avoir accès. Puis, tu sais, les travailleuses de rang peuvent aider à travailler justement des enjeux conjugaux dans une entreprise parce que c'est quelque chose qui est commun et familier. Puis, beaucoup d'entreprises vont souffrir de difficultés conjugales. Puis, c'est comme une belle porte d'entrée là, pour avoir un regard neutre et se faire aider là-dedans.
Fait que c'est des beaux services qu'on s'est dotés en région.
Ouais.
De ne pas hésiter de s'en servir, de les utiliser.
Exactement.
Excellent. Ça fait le tour sur la vie de couple.
Écoute, j'ai déjà hâte à la dernière fois qui sera notre prochaine rencontre.
Oui, la dernière déjà. Ça passe vite avec ça passe vite.
Oui, mais bon, tellement.
On se revoit bientôt.
Parfait.
Merci, salut.
Bye.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Duo du Lac.